Vous écoutez, on lit pour vous.
Ces billets qui creusent des fossés idéologiques. Un texte de Marie-Claude Malbeuf paru le 4 mars 2024 dans la presse. Notre attention et notre mémoire sont beaucoup plus sélectives que nous le pensons. Ce qui nous facilite la vie, mais peut finir par nous dresser les uns contre les autres et nous faire croire des faussetés. Voici le deuxième volet de notre série sur les billets. Le billet de confirmation, sa manifestation. Les informations qui soutiennent nos attentes et notre vision du monde nous sautent aux yeux et s'impriment dans notre matière grise, tandis que celles qui les contredisent nous échappent ou s'évaporent. Inutile de visiter un laboratoire de psychologie cognitive pour le constater. Dans les journaux, bien des gens lisent seulement les textes des chroniqueurs avec lesquels ils sont en accord, souligne Chloé Graton, coéditrice du guide pratique des billets cognitifs, raccourci et doctorante en psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Nous avons souvent le même réflexe sur le web, où nous cliquons surtout sur les informations qui confortent notre point de vue, et ignorons ou discréditons fréquemment celles qui le mettent en péril. Sa raison d'être. Notre cerveau se met sur le pilote automatique et simplifie la réalité pour prendre des décisions plus rapides. Or, compter sur nos expériences et connaissances passées requiert moins d'efforts que les confronter à tout ce qui pourrait les contredire, soulignent les auteurs de Raccourci. Être sélectif nous protège aussi contre les informations qui menacent nos croyances fondamentales et risqueraient par conséquent de provoquer de la peur, de l'anxiété, de la colère ou un état de tension psychologique inconfortable appelé dissonance cognitive. Les deux tiers des participants à une étude canado-américaine ont ainsi renoncé à recevoir une petite somme d'argent tellement la perspective d'entendre le point de vue du camp politique adverse les rebutait. Ces répercussions. Des murs d'incompréhension peuvent se dresser lorsque nous coupons des points de vue opposés et finissons par croire qu'ils n'ont aucune valeur. La certitude d'avoir raison contribue à nous rigidifier et parfois même à nous radicaliser. Elle risque aussi de nous rendre plus vulnérables à la propagande et à la désinformation. Les communautés virtuelles, où tous se font écho et s'influencent, renforcent ce biais, prévient Chloé Graton. Tout comme les réseaux sociaux, avec leurs algorithmes qui filtrent les contenus de manière invisible et masquent à quel point la réalité est complexe. Son antidote. Surmonter notre malaise et nous exposer avec curiosité à d'autres façons de voir la vie et le monde, que ce soit par nos lectures ou nos fréquentations, nous empêche de perdre contact avec une partie de la réalité. Mais puisque ce qui contredit notre vision peut être perçu comme une menace, cet exercice peut difficilement être imposé de l'extérieur. Nous risquerions alors de rejeter les informations soumises en les jugeant biaisées ou fautives et de durcir notre position au lieu de la nuancer. L'effet de répétition, sa manifestation. Entendre la même affirmation à répétition peut nous faire présumer qu'elle est partagée par un grand nombre de personnes et qu'elle reflète la réalité, même lorsque nous savons très bien qu'elle est fausse, révèlent de nombreuses recherches. Les nouvelles virales font donc des dégâts. Le contexte numérique est un terreau fertile pour les biais, parce qu'il y a beaucoup de répétitions et beaucoup trop d'informations dont on ne connaît pas souvent la provenance, observe Émilie Gagnon-Saint-Pierre, cofondatrice du guide Raccourci et doctorante en psychologie cognitive et sociale. Sa raison d'être. La répétition nous permet de ménager nos efforts, car notre cerveau traite plus facilement les informations qui deviennent familières. Ses répercussions. Scander sans relâche les mêmes faussetés, ou théorie permet de manipuler l'opinion publique. C'est ce qu'ont réussi à faire l'ex-président américain Donald Trump et ses alliés, en réitérant sur toutes les tribunes que sa défaite était le résultat d'élections truquées. Aux États-Unis, on enquête de plus en plus pour savoir à quel point des robots disséminent de l'information sur Twitter, sur Facebook, etc., rapporte par ailleurs Chloé Graton, dont la thèse porte sur le traitement des fausses informations. Son antidote numéro un. Même quand les médias traditionnels dénoncent ou démolissent une fausse nouvelle ou une théorie du complot, ils peuvent paradoxalement contribuer à augmenter sa crédibilité et à l'ancrer dans les esprits, prévient Émilie Gagnon-Saint-Pierre. Notre cerveau n'est pas un ordinateur, il ne peut pas effacer ni faire abstraction d'une information reçue. Elle continue donc d'influencer notre raisonnement. Seule solution, combler le « trou » laissé par son retrait en présentant des explications autres qui prendront sa place. Son antidote numéro 2. Il faut s'intéresser à l'arrière-scène des informations et prendre le temps de consulter d'autres sources crédibles avant de les partager, conseille Chloé Graton. Redoubler de vigilance s'impose quand des affirmations éveillent des émotions fortes comme la peur ou le dégoût. Car ces sentiments propulsent la propagation des fausses nouvelles, d'après une étude publiée dans le magazine Savant Science, après analyse de milliers de partages faits sur Twitter. Le mensonge se diffuse nettement plus loin, 6 fois plus vite, plus profondément et plus largement que la vérité, ont conclu ses auteurs. Et les biais des journalistes? Les journalistes relaient des informations en couvrant, par exemple, une conférence de presse ou une manifestation, et mettent au jour des situations nouvelles ou occultes. Par exemple, en faisant un reportage d'enquête. Comme les policiers, les juges, les médecins, les employeurs, etc., ils ne sont pas à l'abri des biais inconscients. C'est pourquoi, si le public soupçonne un manquement, il peut porter plainte au Conseil de presse du Québec, qui peut blâmer les médias et reporters ou chroniqueurs fautifs. Le guide de déontologie du Conseil de presse leur intime de produire de l'information fidèle à la réalité, impartiale, équilibrée et complète. Il leur interdit par ailleurs de laisser les intérêts commerciaux, politiques, idéologiques ou autres primer sur l'intérêt légitime du public à une information de qualité, et prohibe les représentations ou des termes qui tendent, sur la base d'un motif discriminatoire, à susciter ou attiser la haine et le mépris, à encourager la violence ou à entretenir les préjugés. C'était « Ces billets qui creusent des fossés idéologiques », un texte de Marie-Claude Malbeuf, paru le 4 mars 2024 dans la presse.
Développer sa mémoire, un texte de Sylvie Chocron, paru le 9 février 2023 dans le magazine Cerveau et Psycho. Notre mémoire se nourrit autant du contexte que des émotions qui nous traversent et de la fréquence à laquelle nous ravivons nos souvenirs. Il en découle de multiples façons d'en jouer et d'en décupler la portée au quotidien. Il y a quelques années encore, nous étions capables de retenir un grand nombre de numéros de téléphone, mais également les dates d'anniversaire, les adresses et les codes de porte de nos plus proches amis, et nous osions même circuler en voiture en nous basant sur notre GPS interne et non sur une quelconque application. Ce temps nous semble si loin. Un peu comme si, peu à peu, nous avions délaissé notre mémoire au profit de celle de notre téléphone, de notre ordinateur ou de tout autre outil technologique. Paradoxalement, tout se passe comme si l'accès de plus en plus facile à une multitude d'informations sur des serveurs externes s'accompagnait d'une difficulté de plus en plus grande à encoder, stocker et mémoriser ces informations au sein de notre propre mémoire. Un peu comme si l'augmentation de la taille de cette mémoire externe allait irrémédiablement de pair avec une réduction du volume et de la qualité de notre mémoire interne. Qu'arrive-t-il à nos souvenirs pour qu'ils soient devenus moins fiables et moins utiles que ces données stockées sur des disques durs externes, voire sur le cloud? Encodés sans attention, stockés sans lien avec ce que nous connaissons, mal organisés, jamais recherchés, les traces mnésiques se révèlent parfois totalement inutilisables, et cela semble devenir de plus en plus fréquent. Les consultations sur la mémoire n'ont d'ailleurs jamais été aussi remplies. L'externalisation de la mémoire. Cela ne vaut pas seulement pour les sujets vieillissants comme c'était le cas par le passé, mais également pour les personnes jeunes qui ont autour de la trentaine, voire d'enfants qui se plaignent de ne plus pouvoir mémoriser de nouvelles connaissances ou de ne plus être capables d'évoquer des souvenirs anciens. La plupart du temps, fort heureusement, il ne s'agit que d'une plainte subjective, sans perte objective des capacités mnésiques, et les évaluations révèlent la présence de capacités mnésiques tout à fait intègres, mais qui peinent à être utilisées. La cause en est simple. Une bonne mémoire est une mémoire qui nous permet d'encoder, de stocker et de rappeler des informations à la demande. Alors pourquoi nous semble-t-il aujourd'hui, et depuis quelque temps, que notre mémoire ne nous obéit plus au doigt et à l'œil? La première cause tient très probablement au fait que, grâce aux nouvelles technologies, il nous semble que notre mémoire ne fait pas le poids. Convaincus qu'elle est moins bonne que celle de notre téléphone ou de notre ordinateur, nous avons tendance à la désinvestir et à la sous-utiliser. Les internes en médecine vous le diront, Google est leur meilleur allié. Pourquoi mémoriser toute l'anatomie du corps si en un clic il est possible de retrouver le nom d'un muscle ou d'un os sur le moteur de recherche de son téléphone? Gare à l'effet Google. Le problème, c'est qu'à externaliser en permanence notre mémoire, nous perdons tout simplement la capacité de nous en servir de manière rapide et efficace au moment où nous le souhaitons. Essayez de vous souvenir de la dernière cérémonie à laquelle vous avez assisté. C'est difficile? Probablement parce que vous avez suivi l'événement à travers l'écran de votre téléphone et non pas véritablement avec vos yeux. Il y avait d'ailleurs sans doute devant vous une mer d'écrans tendue par des bras identiques aux vôtres. La conséquence? Votre mémoire n'a pas fait ce travail de construction de la scène vécue avec tout ce que cela comporte de détails visuels, sonores, émotionnels, affectifs. Pire, sachant que tout était stocké dans votre téléphone, vous n'avez peut-être même pas évoqué ce moment fort après coup. Sans cette étape de reconstruction, le souvenir ne s'ancre pas durablement dans notre esprit. Il faut réencoder. Car la mémoire a ceci de particulier qu'un souvenir est d'autant mieux stocké et mémorisé qu'il est évoqué. Alors que l'on pensait, avant, que pour bien retenir une information, il fallait l'encoder plusieurs fois, à l'image d'un cours que l'on aurait lu et relu, on sait aujourd'hui que pour bien ancrer un souvenir en mémoire et le récupérer facilement, il faut aller le chercher le plus fréquemment possible. En effet, on envisage aujourd'hui chaque souvenir comme un réseau de nouvelles connexions, c'est-à-dire comme un chemin spécifique entre différents neurones. À chaque fois que vous allez chercher un souvenir, vous empruntez à nouveau tout le chemin qui le constitue et repassez par les étapes d'encodage, de stockage et de rappel, comme au premier jour où vous l'avez créé. Et rappel après rappel, la route que vous suivez devient ainsi de mieux en mieux goudronnée de plus en plus large et praticable. En quelque sorte, rappeler régulièrement un souvenir, c'est transformer un chemin semé d'embûches en une autoroute à quatre voies bien goudronnée. Là où reprendre connaissance d'une information, en la lisant par exemple une énième fois, ne stimule que son encodage, aller chercher cette connaissance en mémoire, c'est-à-dire évoquer un souvenir, nous demande de refaire exactement tout le processus qui a présidé à l'établissement de ce souvenir et stimule donc toutes les étapes de la mémoire, à savoir encodage, stockage et récupération. D'où l'intérêt de se forcer à utiliser sa mémoire avant de se ruer sur son téléphone pour chercher une information. Premier conseil pratique d'une liste de 10 qui permettent de préserver sa mémoire. Le conseil le plus général que je pourrais donner à ceux qui désirent renforcer leur capacité de mémorisation serait de continuer à apprendre et à apprendre à apprendre. Pour la simple et bonne raison que plus nous maîtrisons les processus de mémorisation, plus nous sommes en mesure d'utiliser nos capacités avec aisance. Loin de considérer que notre mémoire n'est qu'une pâle version de celle de notre ordinateur ou de notre smartphone, pensez à ce que celle-ci a de plus que ces dispositifs, cette capacité à sélectionner, jeter, garder, embellir, sublimer les événements que nous vivons. Il y a donc urgence à la valoriser, à l'utiliser, à lui faire confiance sous peine de la voir s'effacer devant une mémoire technologique, générique, standardisée et déshumanisée qui ne nous permettrait plus d'enrichir notre présent des expériences déjà vécues et de celles à venir. Vous écoutez « Développer sa mémoire », un texte de Sylvie Chocron, paru le 9 février 2023 dans le magazine Cerveau et Psycho. 10 conseils pour une mémoire au top. 1. L'utiliser, faire confiance à sa mémoire plutôt qu'à une mémoire externe. Se forcer à retrouver un nom propre, une date, un numéro de téléphone de mémoire avant d'aller vérifier sur son téléphone. 2. Lorsqu'on doit retenir quelque chose pour un certain temps, l'apprendre une fois et se retester 9 fois plutôt que de relire 10 fois l'information. On explique ainsi aux étudiants qu'au lieu de lire de nombreuses fois leur cours pour le retenir, il est beaucoup plus efficace de le lire une fois et de se tester 10 fois. En effet, plus on va chercher une information en mémoire, plus on y ancre cette trace, puisque à chaque nouvelle évocation, le cerveau fait la même opération que la première fois, il encode, il stocke et il rappelle. 3. Pour retrouver facilement une information apprise, s'interroger à des moments complètement incongrus. Sous la douche, en marchant, à table, au réveil, etc. En faisant cela, on met en place des automatismes de rappel des souvenirs et on s'assure de pouvoir récupérer une information très rapidement, presque de manière machinale. 4. Toujours lier une nouvelle information à d'autres déjà présentes dans notre mémoire. Si j'apprends que la température à la surface de Vénus est de 200 degrés Celsius et que c'est le résultat d'un gigantesque effet de serre, il sera très efficace de rattacher cette information à ce que je sais de l'effet de serre et du réchauffement climatique sur Terre. Cette attitude permet de donner du sens à ce nouvel apprentissage et de retrouver l'information beaucoup plus facilement en évoquant tout ce qui s'y rapporte. 5. S'efforcer de mémoriser le contexte dans lequel on apprend une information. Par la suite, lorsqu'on cherchera cette information en mémoire, il suffira d'évoquer le contexte en question, La musique écoutée à ce moment-là, la couleur des murs de la pièce où l'on était, la température ambiante, les personnes éventuellement présentes, les repas pris ce jour-là, etc., pour faire rejaillir le souvenir de cette information. 6. Essayez d'associer des émotions aux souvenirs, car le contenu émotionnel agit comme un renforçateur de la mémorisation. 7. Trouvez une motivation, quelle qu'elle soit, à l'apprentissage, qui doit être réalisée, car les circuits cérébraux de la mémoire et de la motivation se recouvrent en partie et on mémorise d'autant mieux que l'information est pertinente et motivante pour nous. S'imaginer à quoi pourra nous servir plus tard la nouvelle compétence ou le nouveau savoir acquis, ne serait-ce que pour briller en société, se révèle souvent un puissant démultiplicateur. 8. S'entraîner à apprendre et améliorer ainsi nos capacités de métamémoire, c'est-à-dire la connaissance que nous avons de notre mémoire. On a parfois des surprises quand on compare ce qu'on pense avoir mémorisé et ce qu'on a réellement retenu. L'écart entre les deux varie d'une personne à l'autre. Si on a tendance à surestimer sa mémoire, en prendre conscience est important pour renforcer la dose des répétitions. 9. Améliorer la qualité de notre attention au moment où nous encodons une information que nous souhaitons mémoriser. Percevoir avec attention représente la première étape de la mémorisation et nous assure d'encoder la trace de la manière la plus efficace afin de la stocker au mieux et de pouvoir la rappeler. Pour cela, la conscience de la qualité de son attention au moment où on l'apprend peut être développée, notamment par les techniques de méditation de pleine conscience. 10. Améliorer la qualité de l'encodage. Plus l'information que nous encodons est de bonne qualité, plus elle est stockée de manière efficace. C'est pour cela que les étudiants se font des fiches avec de belles couleurs, des grands et des petits paragraphes, et qu'ils essaient d'utiliser des moyens mnémotechniques au moment où ils apprennent. Cela leur assure un encodage des informations très performant et leur permet de mettre toutes les chances de leur côté pour ranger au mieux cette information en mémoire et la retrouver le moment voulu. C'était « Développer sa mémoire », un texte de Sylvie Chocron, paru le 9 février 2023 dans le magazine Cerveau et Psycho.
Tout ce qu'il faut savoir si vous songez à acheter ou à louer un véhicule. Un texte de Charles Tanguay, paru dans le magazine Reflet de mars 2024, volume 40, numéro 3. Depuis la pandémie, le marché de l'automobile est perturbé notamment par la rareté de certains véhicules et par les délais de livraison qui s'étirent. Les analystes le disent, la situation n'est pas favorable aux consommateurs. Et c'est sans compter les taux d'intérêt et les frais de crédit élevés. Les consommateurs qui veulent réserver un véhicule qui n'est pas encore construit peuvent se faire proposer par le commerçant une foule de formules allant d'une simple promesse verbale à un contrat en bonne et due forme. L'interprétation des diverses situations et la présence dans certains contrats de clauses abusives ou illégales peuvent conduire à des litiges, par exemple lorsque l'acheteur se désiste ou que la date de livraison ne cesse d'être repoussée. Il arrive que les consommateurs se fassent imposer, une fois le véhicule disponible, des modifications désavantageuses, prix plus élevé, options manquantes ou, au contraire, véhicule plus équipé et plus cher, insistance du vendeur pour que le client fasse financer chez lui son achat ou souscrive à des protections supplémentaires. Et, bien souvent, ces discussions peuvent être faites sous la menace à peine voilée que le véhicule pourrait très bien être vendu à quelqu'un d'autre. Gardez en tête que dans tous les cas, le commerçant d'automobile est tenu de respecter ses promesses. À noter, si des éléments essentiels de l'entente, tels que le numéro d'identification du véhicule, NIV, ou le prix, ne sont pas précisés dans le document, il ne s'agit pas d'un contrat de vente. Le consommateur peut se dédire de sa réservation sans frais ni pénalité. Le commerçant, par contre, est tenu de respecter l'entente. S'il ne livre pas le véhicule dans le délai promis ou s'il propose un véhicule différent, le consommateur peut lui réclamer des dommages. Quelle que soit la nature de l'entente, le paiement d'un acompte, très souvent exigé, devrait lui aussi faire l'objet d'une clause écrite précisant qu'il sera entièrement remboursable si le consommateur choisit de se désister. Il arrive que le commerçant tente d'imposer au consommateur une majoration du prix. Il faut souligner que cela constitue une infraction à la loi sur la protection du consommateur. De plus, le seul fait de stipuler dans un contrat ou ailleurs que le commerçant se réserve le droit d'augmenter le prix constitue également une infraction passible de poursuites pénales et de dommages-intérêts punitifs. De même, la pénurie de certaines composantes peut faire en sorte que des modèles soient construits sans que toutes les options soient fonctionnelles. Pénurie ou non, le consommateur qui paie pour une caractéristique en particulier est en droit d'exiger que le véhicule livré soit conforme à l'entente. Dans le cas contraire, il peut demander l'annulation du contrat ou la réduction du prix, ainsi que des dommages-intérêts. Rappelez-vous qu'une fois le contrat de vente signé, le consommateur ne peut pas changer d'idée, sauf dans le cas d'un contrat de financement, vente à tempérament, où il dispose d'un délai d'annulation de 2 jours. Dans le cas d'un véhicule d'occasion, cette annulation est possible seulement si l'acheteur n'a pas encore pris possession du véhicule. À noter aussi que le financement d'un véhicule sur une très longue période permet certes de garder les paiements périodiques plus bas, mais coûte en bout de piste beaucoup plus cher. Pour connaître d'autres trucs sur l'achat d'une automobile et pour calculer les frais de crédit en fonction de la durée du terme de financement, consultez les conseils de l'Office de la protection du consommateur. opc.gouv.qc.ca/auto. C'était tout ce qu'il faut savoir si vous songez à acheter ou à louer un véhicule. Un texte de Charles Tanguay paru dans le magazine Reflet de mars 2024, volume 40, numéro 3.